France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, peut-on apprendre à écrire des livres, notamment des romans, et si oui, comment ? Question posée alors que tout ce week-end, Radio France fête le livre, ici même, à la Maison de la Radio. Question posée alors que les Français seraient très nombreux à écrire. Il y aurait même plus d'un million de manuscrits en souffrance dans des cartons ou des ordinateurs. Si l'on en croit une enquête du Figaro, réalisée il y a plusieurs années, des livres qui attendent d'être édités, d'autres pas forcément finis, que leurs auteurs ne savent pas comment terminer, justement. Alors, certains tentent d'apprendre à écrire. Ils participent à des ateliers d'écriture de plus en plus nombreux, des ateliers qui ont prouvé leur efficacité. Si l'on en croit ce qu'en disent par exemple des écrivains comme Leïla Slimani ou David Lopez, des ateliers organisés par des maisons d'édition, des universités, des médiathèques, des centres culturels. Mais ces ateliers, comment se déroulent-ils et qui les anime? Nous allons poser toutes ces questions à nos invités. Jean-Marie Laclaftine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, vous animez des ateliers pour les éditions Gallimard. Mohamed Aissaoui, qui est critique au Figaro littéraire, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Votre journal organise aussi des ateliers d'écriture. L'écrivain Alain Mabankou, qui donne des cours lui aux États-Unis, est resté avec nous. Rebonsoir Alain Mabankou.
Rebonsoir.
Et avec nous également Ilana Moriousef, qui est chargée des livres ici à la rédaction de France Inter. Autant dire qu'on va pouvoir répondre à vos questions ce soir. Alors n'hésitez pas à nous appeler, surtout si vous écrivez, si vous êtes passé par des ateliers, que vous rêvez d'écrire ou que vous n'osez pas. 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Un premier appel au standard de France Inter. Sophie est en ligne. Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir.
Bienvenue merci. À vous, on vous écoute.
Alors moi je viens témoigner, je suis la maman d'un garçon qui est en terminale L. Et donc, en pleine réflexion sur son orientation, et mon fils écrit depuis de nombreuses années, il écrit des nouvelles. Il essaye d'écrire un livre depuis quelques années, alors avec un univers très particulier, mais qui est bien à lui. Mais la question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui, avec l'orientation qui arrive, c'est ben, comment apprendre à écrire. Et on se rend compte qu'en France, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable formation pour être écrivain. Il faut passer par des études littéraires, alors soit des prépas littéraires et des grandes écoles, ou alors la faculté. Et il s'est rendu compte aussi que dans les pays anglo-saxons, il y avait effectivement des possibilités d'apprendre à écrire avec des techniques qui étaient proposées, notamment à partir du niveau master en Angleterre. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est une question qui... La question qui était posée par le téléphone sonne aujourd'hui m'a interpellée. C'est pour ça que j'ai voulu un peu témoigner sur la situation de mon fils aujourd'hui.
Merci Sophie. Bon, on va essayer d'y répondre pour voir comment votre fils peut se lancer dans cette voie-là. Qui veut lui répondre? Mohamed Aissaoui, peut-être?
Oui, bah écoutez, déjà, c'est assez rare qu'un enfant de cet âge-là ait déjà écrit. Donc c'est la première école, c'est de continuer à écrire. Mais c'est vrai, il y a un paradoxe en France. On peut apprendre de la musique, on peut apprendre à danser, on peut aller dans les écoles de théâtre, etc. Mais il n'y a pas d'école d'écriture littéraire. Ça commence quand même dans certaines universités, donc il faudrait qu'ils regardent...
Il y a des masters, c'est
ouais,
ça?
Il y a des masters, ou il y a des écoles qui ont... un département de création littéraire, des universités. Bon, à lui de regarder, mais surtout de continuer à écrire. Et puis quand il sera... parce qu'il existe aussi des ateliers d'écriture parmi les associations, il y en a beaucoup. On peut en citer quelques-unes. Le Alep, les ateliers Elisabeth Bing, etc., qui acceptent tout public. Et donc, il peut aller se confronter, parce que c'est la première des choses, c'est confronter son écriture à un œil extérieur, et puis à d'autres qui vont l'écouter. Et ça peut être très intéressant pour lui.
Jean-Marie Laclaftine, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, à Sophie, à la maman de ce garçon qui a envie de devenir écrivain?
Il est très jeune, donc il faut en effet lui conseiller d'explorer davantage, d'approfondir son désir, parce que on ne peut pas dire qu'il y ait un apprentissage vraiment de l'écriture. On ne va pas lui apprendre à devenir écrivain.
Il n'y a pas une filière précise qui garantit le succès au bout.
En revanche, je pense que ce que les ateliers d'écriture peuvent apporter, c'est un accompagnement dans la réflexion personnelle. On est seul quand on écrit. C'est ça, on n'est pas étudiant. On est seul avec soi-même et on étudie sa propre matière. Donc, ce qu'il faut, c'est chercher... Lui, il a 18 ans, je suppose. Enfin, il est en première, c'est ça, ou en terminale. Il a 17-18 ans. Il faut qu'il continue à écrire et qu'il, qu'il soit vraiment sûr de ce qu'il a envie de faire. Et ensuite, peut-être qu'il pourra trouver des accompagnements, des accompagnateurs pour cheminer avec lui et lui dire, là, tu viens de faire... d'écrire ceci, est-ce que tu es sûr que tu n'aurais pas pu faire mieux, de t'y prendre autrement, qu'est-ce que tu veux vraiment. Et c'est ça le but des ateliers d'écriture, ça n'est pas un apprentissage scolaire.
On va revenir évidemment sur ce que font les ateliers. Alain Mabankou, vous qui êtes à cheval sur plusieurs continents et notamment aux États-Unis, est-ce que c'est différent là-bas?
Oui, c'est différent, mais c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que on n'apprend pas forcément quelqu'un, voilà, en garantissant que vous allez devenir un écrivain. L'apprentissage de l'écriture, ça pose pas de problème, par exemple, dans le cinéma où on apprend à écrire les scénarios. Parce qu'il y a des techniques imposées, il y a déjà une forme d'écriture intérieure jour, nuit, etc., etc. Il y a une forme qu'il faut déjà apprendre. Et d'ailleurs, il y a même des logiciels pour les scénarios où tout est déjà formaté avec un logiciel et puis vous mettez les dialogues, etc., etc. Mais en matière de littérature, de roman, intervient la sensibilité de l'écrivain, son vécu à l'intérieur, le remis-ménage qui est parfois même l'écriture consiste à aller à l'encontre de ce qui a été fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas vouloir devenir tout d'un coup Marcel Proust en commençant longtemps, je me suis couché, ah tiens, moi aussi je vais dire hier je me suis couché. Il y a un certain moment où je pense que l'acharnement, la continuité, la régularité finit par faire de quelqu'un un écrivain. Parce que vous installez un univers, vous commencez à voir vivre les personnages. Il faut que, c'est ce qu'elle dit dans son livre qui est publié chez Gallimard dans l'imaginaire, Lettre au jeune romancier de Mario Vargas Llosa. C'est-à-dire que, à un moment donné, les textes que vous êtes en train d'écrire doivent atteindre une autonomie telle que il vit sa vie à l'extérieur de ce qu'est notre vie. Quand quelqu'un va l'ouvrir pour le lire, il va croire que ce qui est raconté est vrai, alors qu'il s'agit d'une fiction, il s'agit d'une sorte de, entre guillemets, mensonge qui s'est opéré là-dessus. Il faut simplement commencer à détacher cela et à lui expliquer par des exemples, et c'est là la création littéraire, par des exemples d'autres écrivains. Voilà, par exemple, si vous prenez cette nouvelle, puisque là, en l'occurrence, c'est une nouvelle. La nouvelle la plus enseignée dans la création littéraire, c'est la plus courte peut-être au monde, et c'est d'Auguste Monterreso. Quand il se réveilla, virgule, le dinosaure était toujours là. Quand il se réveilla, le dinosaure était toujours là. À quelle époque nous sommes, puisqu'on parle du dinosaure? Pourquoi c'est écrit au passé simple? Mais où se trouve-t-il? Donc ce sont des questions qui peuvent se poser et là peut se créer finalement une intrigue.
On va prendre Olivia qui nous appelle de Paris. Bonsoir Olivia.
Bonsoir.
Alors vous fréquentez un atelier d'écriture?
Oui, j'ai fréquenté un atelier d'écriture, oui, chez Gallimard. Et par rapport donc au côté apprentissage ou pas de l'écriture, ce que je voulais dire pour témoigner, c'était que en fait la première fois où j'ai été confrontée aux autres participants de l'atelier, j'ai été obligée de lire mon texte et j'étais très inquiète parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être critiquée, j'avais peur qu'on me comprenne pas. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'était que c'était pas scolaire, qu'on n'avait pas de notes, qu'on n'avait pas de classement et que simplement on se lisait les uns les autres pour avoir des retours. Et ces retours, c'était de savoir juste si on avait été compris, si on avait été efficace, si on avait été clair. Et c'est tout à fait une approche différente d'un système scolaire classique. Donc on découvre là les mots ensemble parce qu'on est toute une équipe et on est avec l'animateur écrivain qui nous fait ses retours, mais aussi dans ce même sens de savoir si la phrase est efficace et si les paragraphes s'enchaînent bien par rapport au sujet qu'on veut développer.
Donc vous avez trouvé ça utile, Olivia ?
J'ai trouvé ça utile et puis surtout on redécouvre les mots et puis on découvre le potentiel des mots et on développe une expression écrite qu'on n'avait pas avant. Donc on a beaucoup de joie, enfin ça donne un bagage, une force, oui, j'ai trouvé, oui.
Merci beaucoup Olivia pour ce témoignage, Jean-Marie Laclaftine.
Oui, bien, je reconnais Olivia.
Vous la reconnaissez. Oui,
elle a fait plusieurs de mes ateliers. Bonsoir Olivia. Et en effet, L'idée de l'atelier, ça n'est encore une fois pas du tout scolaire. C'est la tentative d'aller vers soi, de découvrir en soi ce qu'il y a de richesse, mais aussi à quels obstacles on se confronte. Beaucoup de gens écrivent dans la solitude. C'est même la nature même de l'écriture. Donc souvent on tourne en rond sans se rendre compte de la nature des difficultés qu'on rencontre. Et l'atelier, c'est un lieu d'échange, un moment et un lieu d'échange avec un écrivain. Pour le cas des ateliers de Gallimard, ils sont animés par des écrivains qui ont déjà écrit pas mal de romans, qui savent de quoi il s'agit et avec qui vont pouvoir accompagner l'auteur dans sa recherche et lui dire mais là tu tournes en rond, tu te heurtes à ceci, à cela, tu choisis telle solution mais peut-être que tu pourrais choisir telle autre, et tout cela dans une bienveillance totale
appréhension chez les gens, hein. Olivia le disait, mais on a des messages, hein, qui arrivent sur franceinter.fr et qui disent ça. Catherine par exemple qui nous dit qu'elle écrit, qu'elle aimerait écrire, mais elle a peur d'être médiocre, elle a peur qu'on vienne lire ses textes, elle a peur de ce qu'on va lui dire, Mohamed Essaoui. Qui animez des ateliers.
Il faut bien qu'elle se dise que tous les écrivains se disent qu'ils sont médiocres.
Et même quand ils ont publié une dizaine de romans. Non, mais c'est vrai que ce que dit Jean-Marie Lacatine, on peut le résumer par le fait qu'un atelier, ça rompt l'isolement. On écrit seul, et là, on va se confronter, on a peur, on a tous peur, hein, l'animateur y compris, d'une phrase malheureuse, etc. Et très vite, et chaque fois, ça relève presque du miracle, il y a une sorte d'alchimie qui se crée avec des échanges, des retours. Et c'est ça qui manque à un auteur, surtout quand il n'a pas publié, quand il ne connaît pas le milieu de l'édition. Il a un retour. Et il sait que, évidemment, qu'il y a le talent qui est primordial, mais c'est aussi une question technique. Tout à l'heure, Alain a évoqué le début d'une nouvelle, etc. Et ça, c'est quand même une des clés, pour moi, de l'atelier d'écriture, c'est-à-dire qu'on n'est pas isolé.
Alain Mabanko.
Je pense qu'on n'a pas à avoir cette appréhension, vu que même les écrivains dits déjà publiés, installés, on continue toujours à nous materner, parce que c'est pas parce que vous avez publié que vous avez la science infuse, que tout ce que vous publiez devient parole biblique. Hein.
On continue de vous rassurer, c'est ça que vous voulez dire.
Mais l'écrivain aussi a besoin de se sentir qu'il y a un rapport de discussion. Je veux dire que j'ai publié, Jean-Marie Lacavetine a publié, j'ai publié avec lui le Demain j'aurai 20 ans. Il y avait des passages où je me disais, ah là je suis bien tranquille. Là il me disait, mais là Alain, on dirait que tu t'es fait trop plaisir, c'est long pour rien, laisse cette histoire de Saint-Exupéry et tout. Bon, je boude un peu, mais quand je rentre à la maison, je le lis, je dis, il a raison. Parce que, il y a toujours, on n'est pas des machines, hein, romancier. C'est pour ça qu'il faut faire, il faut écrire quand il faut sentir qu'on écrit. On n'est pas des machines. Quand on a rien à dire, il faut avoir la sagesse de se taire. Mais si on continue à simplement remplir des pages pour que ça fasse plus gros et qu'on ait l'impression que c'est au poids que ça compte, eh ben, à ce moment, lisez parfois des petits romans comme, je vais dire, Le vieil homme et la mère, Le petit prince, Perfection dans l'écriture. Quand vous voyez les premières phrases de, je sais pas, de L'étranger de Camus, aujourd'hui maman est morte, ben, c'est extraordinaire de se dire que la peur qu'ils ont, ils pensent que nous autres qui avons déjà publié, nous ne l'avons plus. Non! C'est quand vous avez publié et que vous avez derrière vous des livres qu'on a aimés, certains qu'on a décessés, mais vous gardez l'image de ceux qu'on a aimés, et on vous juge toujours au miroir de ce que vous avez fait avant. On vous dit, mais écoute, Alain, par rapport à l'autre, là, quand même.
Ça fait plaisir, Jean-Marie Lacavetine, hein, d'entendre comme ça.
Hein. Oui, mais c'est un bonheur
de travailler
avec
Alain. Vous êtes un peu dur, mais vous êtes content après quand il y a
Il est très gentil, hein, dans sa dureté, quand même.
C'est joli. Oui,
ça, c'est vrai que en atelier, je retrouve ça aussi, le plaisir de rencontres individuelles très très approfondies, en dehors de tout jugement, simplement essayer avec l'autre de voir comment le texte peut s'organiser autrement, de façon comment il peut être amélioré. Et donc on étudie toutes les possibilités. Et en atelier, comme on travaille souvent sur des textes assez courts qui sont produits dans un laps de temps bref, on peut se donner toute liberté. On n'a pas et on peut explorer des voies qu'on n'avait jamais explorées. Je me souviens d'une personne qui avait participé à mon atelier, qui était arrivée avec des textes très mélancoliques, très poétiques et assez beaux. Mais elle, à l'occasion d'un exercice qu'elle a fait en atelier, elle s'est découvert une veine comique tout à fait inattendue et extrêmement efficace. Et
ça vous êtes fort quand même. Hein.
Ça peut arriver.
Faut le dire quand même. On va repartir au stand de France Inter. Cette fois-ci, c'est Mehdi qui est en ligne. Mehdi qui est professeur de français, c'est ça? Bonsoir Mehdi.
Oui, bonsoir. Oui, tout à fait.
On vous écoute.
Alors voilà, donc ma question, je vais un peu expliquer le contexte. Je propose à mes élèves, en début d'heure de cours, 5 minutes, ils ont un cahier d'écrivain, 5 minutes à partir d'une phrase dite amorce, d'écrire ce qu'ils veulent. Voilà, donc ils ont quand même un appui. Certains sont très enthousiastes, s'éclatent, écrivent, ont un vrai plaisir à écrire puisqu'on n'est plus dans la contrainte de l'orthographe, de la syntaxe, de la note, de la fameuse note, du jugement.
Vous êtes en lycée, Mehdi ?
En collège.
Collège, d'accord.
Donc de la 6e à la 3e. Ouais. Et puis d'autres blocs. Donc le principe c'est quand même sur la base du volontariat. Alors ils n'arrivent pas à écrire un mot, ils sont complètement bloqués. Donc ma question est la suivante. Alors moi je suis un petit peu désemparé, dans la mesure où c'est pas une activité obligatoire, c'est vraiment le principe, vous savez, comme les droits imprescriptibles de Pénac, le droit de ne pas lire, le droit aussi de ne pas écrire, quoi. Et je sais pas comment débloquer leur blocage.
Eh ben, on va poser la question.
Ouais.
Merci Mehdi. Mohamed Aïssaoui, qui est critique littéraire au Figaro.
Oui,
qu'est-ce qu'on fait quand on bloque comme ça?
En fait, j'interviens pas mal dans les collèges et dans les lycées, le vendredi dernier par exemple. Mais il y a une vraie difficulté quand on a une classe de 30. C'est quand même quand on est 30, et qu'il y a quelques élèves qui sont bloqués, c'est difficile de débloquer. Mmh. En plus, ils se connaissent entre eux, etc. Ce qu'on a fait avec certains professeurs, c'est qu'on a divisé la classe en 4. Et ça a changé tout. C'est-à-dire qu'on était à peu près 8. Et là, le déblocage se faisait plus facilement. Il y a toujours des blocages, hein, même chez les adultes. Mais c'est vrai que quand vous avez une classe et que vous avez 50 minutes avec 30 élèves, c'est un peu plus difficile. Voilà, c'est ce que je peux me permettre de conseiller, parce que c'est un atelier, mais ça reste intime. Et c'est de cette intimité qu'on peut trouver une certaine confiance. Mmh.
Voilà Mehdi, j'espère que ce sera un bon conseil qui va vous être utile. On va rejoindre cette fois-ci, toujours au Standard de France Inter, Hélène Legré. Alors il se trouve que tout à l'heure, Ilana Mouyoussef, vous nous avez présenté un de ses livres dans le journal de 19h, mais là, elle est en ligne avec nous. Vous êtes là, Hélène Legré?
Oui, bonsoir.
Parce que vous animez des ateliers, alors je crois, d'une part à l'Université de Perpignan, mais aussi à la médiathèque de Prades, c'est ça?
Oui, Prades, c'est une sous-préfecture du département des Pyrénées-Orientales, dont j'habite pas très loin. Ça fait 13 ans que je le fais, donc j'anime aussi bien avec des groupes, je dirais, très hétérogènes, hein, puisque ça va je crois que la plus jeune a 11 ans jusqu'à 80 ans. Et puis à l'université, évidemment, avec des étudiants et des personnels de l'université, c'est un public totalement différent, effectivement. Et on travaille différemment, ce qui est normal. Le but étant que chacun puisse s'exprimer. Effectivement, je vous écoutais et je rebondissais sur ce que vous avez dit. L'atelier, c'est vraiment au sens artisanal du terme, on fabrique de l'écriture. Le but, c'est de les amener à s'exprimer dans leur univers avec leur style et de leur donner, de leur dérouiller la plume. Et moi, je leur dis toujours, vous avez une cabane à construire, moi, je vais vous donner la boîte à outils pour convaincre les difficultés et aller jusqu'au bout. Parce qu'en général, ce sont des gens qui ont des débuts de plein de choses dans les tiroirs, mais ils n'arrivent jamais à aller au bout de ce qu'ils voudraient écrire. Et ça, c'est mon rôle. Alors, en leur donnant des exercices, effectivement, des contraintes. C'est bien de leur donner des contraintes, pas parce que ça brime leur liberté, au contraire, mais ça les oblige à pas s'arrêter à la première idée et aller chercher plus loin, être un peu plus malin, pas aller au plus facile. Et au début, ils renaclent, et puis après, ils en demandent. Donc, vous voyez. Et alors, en ce qui concerne les étudiants, c'est un peu autre chose. C'est que malheureusement, dans l'université en France, en général, il n'y a pas d'espace d'écriture libre, de création. Les étudiants, même en lettres, dissertent. ils analysent, ils comparent des auteurs. Et là, on leur offre dans ces ateliers culturels donc un espace de création. Et là, ils retrouvent, faut avouer quand même que les cours de grammaire, par exemple, c'est assez barbatif. Mais là, ils retrouvent le plaisir d'écrire. Et moi, mon but, c'est justement de leur offrir cet espace de liberté. C'est vrai que dans les universités, par exemple, anglo-saxonnes, il y a des filières qui permettent d'apprendre à écrire, par exemple. Et je regrette qu'en France, ce soit pas le cas.
Merci Hélène Le Gray. C'est vrai que ça, Alain Mabankou nous le disait tout à l'heure.
C'est vrai, il y a des filières. Et puis, dans ces filières, on n'attend pas forcément que ceux qui viennent étudier la création littéraire, ce qu'ils appellent creative writing, qu'ils deviennent forcément des écrivains. Ils peuvent à la suite aussi devenir des professeurs de création littéraire, c'est-à-dire en forme. Là, on est noté, hein, parce que c'est vraiment un diplôme dans une école. Vous sortez, vous avez ce diplôme, et si vous pouvez revenir enseigner, ou alors il y a certains qui deviennent des écrivains. On a l'exemple aussi aux États-Unis des Izondi Maiweila, dont j'ai traduit le livre Bête sans patrie ici pour les éditions de l'Olivier. Donc il y a comme ça, des études, parce que c'est inscrit chez eux. Quand vous allez, ça rentre dans le cadre des arts, avec S à la fin. Donc, c'est vraiment une création artistique dans ce sens. De la même manière qu'on va apprendre le dessin, la musique, on apprend les formes de la création, les styles, comment on commence, le temps. Est-ce que le temps dans lequel vous êtes en train d'écrire le texte, si vous l'écrivez au présent, ça veut dire que celui qui raconte est à la fois à l'intérieur de l'histoire et raconte. Si vous le faites à la première personne, je, donc là vous êtes vraiment le personnage narrateur, mais si vous le faites à la troisième personne, vous êtes le personnage omniscient, comme Dieu qui voit tout, qui sait tout.
Alain donne déjà les cours. Hein,
c'est
un atelier en direct.
Voilà, c'est un atelier radiophonique. Voilà. On va dire ça. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous insistez sur la notion de plaisir. Et c'est vrai que ceux qui vont, tout cas volontairement dans ces ateliers, c'est qu'ils ont forcément ils y ressentent du plaisir. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quelle est l'ampleur du phénomène. Est-ce qu'on a une idée, Mohamed Al-Issaoui, du nombre d'ateliers qu'il peut y avoir, de ce que ça représente ou pas ?
Non, pas d'idée précise parce que c'est difficile à quantifier. Le sondage qu'on avait fait nous avait étonné par son ampleur. C'est-à-dire 6,5% des Français rêvent d'écrire et ont déjà un texte qu'ils voudraient présenter. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. En tout cas, ça répond à une attente. C'est assez incroyable. Là, on le propose. Chez Gallimard, j'ai vu, ils sont déjà complets jusqu'en 2020.
2025.
Voilà.
2025.
Voilà. Et en tout cas, ça répond à quelque chose. Et ce que je voudrais dire quand même, c'est que et c'est une promesse qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on ne dit pas vous allez devenir écrivain. Parce que parmi les participants, il y en a beaucoup qui viennent pour le plaisir, qui viennent vraiment pour le plaisir, pour lire autrement aussi. Un petit tiers vient pour laisser des textes familiaux, donc c'est pas pour publier à des milliers d'exemplaires. Et donc, ce sont des passionnés. Et ça, c'est vraiment, c'est aussi un plaisir pour l'animateur ou l'animatrice de l'atelier.
Hélène Mouyoussef.
Oui, c'était un peu la question que je voulais vous poser. Ceux qui viennent, ils viennent toujours en vue d'une publication. Et qu'est-ce qui se passe après l'atelier d'écriture ? Comment on fait pour leur dire, quelquefois...
La vérité.
Alors,
oui.
Oui, ceux qui viennent chez Gallimard...
Jean-Marie Lacaftine.
Oui, ceux qui viennent chez Gallimard, d'une façon générale, ont quand même derrière la tête l'idée d'une possible publication un jour. Pas tous, hein, mais disons qu'il y a quand même une majorité, ce qui est tout à fait normal et légitime. Ce qui me frappe, c'est leur degré d'investissement dans l'écriture. Les gens, beaucoup de gens travaillent. Ils ont évidemment des activités professionnelles qui sont très accaparantes, des activités familiales. Et donc certains se lèvent tous les jours à 4 heures du matin pour écrire, pour assurer 2 heures ou 3 heures d'écriture, ou le soir ou la nuit. C'est extraordinaire, le désir d'écriture qu'il y a chez les gens qui viennent s'inscrire aux ateliers, c'est fascinant. Et ça crée aussi une atmosphère extrêmement intense et prenante. Il y a beaucoup d'échanges pendant les séances, mais aussi entre les séances. Et ensuite, après, quand l'atelier est terminé, d'abord on a généralement avancé sur la réflexion par rapport à des œuvres en cours. Et après, ils terminent leur travail, ils envoient le manuscrit. Avec certains, je reste en contact permanent parce qu'ils ont vraiment commencé un livre en atelier. Donc je suis l'avancée des travaux. C'était le cas pour Laïla Slimani, c'était le cas pour une jeune femme qui s'appelle Geoffrine Donadieu, dont on publiera un roman en septembre sans doute prochain. Mais pour d'autres, évidemment, ça se solde par un refus. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait prévenus qu'il n'y a aucune assurance d'être publié. Mais c'est très important d'entamer un dialogue. Et le dialogue, c'est pas seulement avec l'animateur de l'atelier, mais aussi avec le groupe. Et il y a des groupes qui continuent souvent à se réunir après l'atelier, après la fin de l'atelier. Ce sont des ateliers qui durent 8 semaines en général. Et après, là, la semaine dernière encore, j'étais à un dîner d'un ancien atelier. Ils sont toujours là, toujours. Alors, ils connaissent leur projet les uns les autres. Ils s'encouragent, ils se questionnent. C'est vraiment incroyable l'intensité des passions que l'écriture suscite.
Et on va voir la diversité surtout de ceux qui participent à ce genre d'atelier, parce que Céleste est en ligne de Mulhouse, me semble-t-il.
Oui, c'est ça.
Oui, bonsoir. Alors dites-nous tout, vous êtes assistante sociale, c'est ça, et vous travaillez avec des sans-abri?
Oui, c'est ça. Je me suis permis de vous appeler parce que je me reconnaissais, j'étais pressée d'écouter l'émission, mais en fait l'émission telle que je l'écoute, c'est Comment devenir un écrivain, l'atelier écriture pour devenir écrivain, etc., etc. Ici, à l'association où je travaille, l'association pour le logement des sans-abri, les ateliers écriture qu'on met en œuvre et auxquels on participe, c'est pas ça. C'est plutôt un outil de travail social. C'est plutôt pour permettre aux gens donc c'est surtout des hommes, plutôt d'un certain âge, plutôt plus de 40 ans, des problèmes d'addiction, des problèmes de psychiatrie, de passage à la rue, de la grande précarité, des personnes avec qui les entretiens ou la communication des gens qui ont peu ou plus de désir pour notre société, pour la vie, des publics, voilà. Et c'est vrai que l'atelier écriture, donc sans grammaire, sans orthographe, sans avec la bienveillance dont vous avez tous parlé, avec cette notion de partage, permet de ensemble, en groupe, de libérer des émotions, voilà, de l'évasion, de l'imaginaire, de voilà. Et c'est à cet endroit-là, souvent pour certains, que se réveille ou ressuscite du désir de d'un tas de choses qu'on après on peut utiliser ou on peut s'appuyer dessus pour autre chose. Voilà. Donc ça, c'est les ateliers d'écriture avec notre public.
Et ben, c'est un très beau témoignage. Merci beaucoup, Céleste Mohamed Aïssaoui.
Oui, c'est une dimension sociale vraiment primordiale des ateliers d'écriture, parce que là on a parlé chez Gallimard, au Figaro, etc. C'est des gens qui sont déjà instruits, qui savent écrire et qui veulent apprendre à mener un récit, mais il y a une dimension sociale qui est vraiment très importante, qui est faite par exemple par les associations comme ATD Quart Monde ou les Restants du Cœur. Il y a des ateliers d'écriture qui sont là pour donner à s'exprimer.
C'est presque une thérapie, c'est ça ?
C'est une sorte de thérapie, et certains même arrivent à la lecture par l'écriture, c'est-à-dire qu'on leur dit d'écrire et ils vont découvrir la lecture, donc après pouvoir peut-être lire des romans, etc. Et cette dimension sociale, elle est vraiment prégnante dans les ateliers d'écriture, et c'est un mode d'expression.
Oui, c'est vraiment cette dimension-là, c'est pour apprendre l'expression, l'écriture, apprendre la communication, et peut-être aussi donner à quelqu'un les moyens qui pourront lui permettre de s'exprimer vraiment dans une écriture qui soit bien, qui soit lisible, qui soit belle. Mais c'est vrai que les ateliers d'écriture dont nous parlons ici sont des ateliers qui veulent faire un pas vers la publication de quelque chose. Donc c'est une création vraiment littéraire, évidemment. Comment on peut faire un atelier d'écriture pour ça? Je peux le faire par exemple pour certains Américains aussi qui veulent perfectionner, semble-t-il, la langue française à ce moment, les tournures, la façon d'écrire, comment on écrit une correspondance, comment on écrit une lettre d'embauche, comment distinguer. Mais même dans ça, dans l'expression que nous avons dans la vie courante, c'est l'originalité qui finit toujours par retenir l'attention de quelqu'un. Quand vous avez 10 lettres de d'embauche, eh ben parfois il y a des lettres qui sont tellement originales que on va les lire 4 fois avec un bonheur. On veut l'encadrer pour le coller contre ce mur. La littérature, c'est la même chose. Vous avez 30 manuscrits qui vont arriver le jour. C'est celui qui aura plus d'originalité à l'intérieur, de folie, de renversement, de bouleversement, de rêve, des clins d'œil littéraires qui va finir sur l'emporter, parce que vous pouvez formater quelqu'un à écrire quelque chose. Il faut pas qu'il soit non plus un clone, il faut qu'il ressente sa personnalité à l'intérieur. Le plus on va sentir votre originalité, le plus on va sentir votre moi qui est là, qui s'exprime avec tous les risques, là, ça va sonner juste.
Alors, pour poursuivre notre petit tour, pour vous dire que vraiment, il y a des ateliers d'écriture absolument partout, on va prendre en ligne cette fois le romancier Rachid Santaki. Bonsoir Rachid Santaki.
Bonsoir Claire.
Parce que vous animez des ateliers dans les prisons, ouais. Rachid Santaki. Je précise que vous êtes un des organisateurs de la dictée géante, la dictée des cités. Et vous allez donc en prison pour de tels ateliers?
Oui, je rejoins Madame qui intervenait tout à l'heure. C'est que, alors j'interviens également en établissement scolaire, lycée, etc. Mais en prison, effectivement, ça rejoint ce que disait Alain. C'est qu'en fait, l'écriture, c'est un prétexte. Donc on a trois publics, ceux qui sont complètement éloignés, ceux qui sont en difficulté, enfin qui ont un peu décroché, puis ceux qui sont à l'aise. Et du coup, l'atelier, c'est un espace où finalement, on va se révéler. On trouve peut-être sa voix dans la personnalité, c'est ce qui était dit juste avant. Donc il y a à la fois l'aspect de lien social, mais d'espace où on va se rapprocher grâce à l'écriture et peut-être trouver un espace où on s'exprime, où on est à l'aise. Donc voilà, c'est effectivement l'écriture. Il y a aussi cet aspect de se raccrocher.
Vous voyez des détenus pour qui c'est un vrai plus?
Bah, je le vois, oui, parce que en fait, il y a aussi l'aspect pour moi l'écriture. C'est pas forcément, enfin, ce n'est pas que ce moment où on va essayer de travailler sur les mots, les révéler tout, mais c'est aussi un espace où on est à plusieurs et on discute en fait. D'abord, on est plusieurs cerveaux à échanger sur des histoires, sur voilà, et donc du coup le fait de discuter, de créer un lien, de voir que ça nous valorise parce qu'on contribue à l'avancée de l'histoire lors de l'atelier, ben ça devient aussi un moyen de se raccrocher, de communiquer.
Merci beaucoup Rachid Santaki pour ce témoignage. Jean-Marie Laclaftine, on est loin des salons de Gallimard là, mais
oui, ça c'est vrai.
C'est intéressant. Il faut tout pour faire un monde. Hein.
Bien sûr, je pense que c'est très très important ce travail qui est fait un peu partout dans notamment dans les prisons. Je pense à René Frény, qui est un auteur Gallimard, justement, qui depuis des années, anime des ateliers d'écriture au Baumettes, et ce qu'il en dit est tout à fait passionnant. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je suis persuadé que c'est, bien sûr, nécessaire et important.
Alors, il y a évidemment tous les conseils d'écriture que vous pouvez donner au cours de ces ateliers. Est-ce qu'il y a aussi des conseils concernant la façon de présenter son manuscrit à un éditeur éventuellement? Et là, on va prendre la question de Laurent, qui nous appelle d'Ablon-sur-Seine. C'est bien ça, Laurent?
Oui, enfin, c'est Noiseau.
Oh,
c'est une commune du Val-de-Marne.
Bon, écoutez, c'est pas loin. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Dites-nous
oui,
tout.
Oui, je vous appelle parce que, donc, quand j'étais jeune, j'ai écrit beaucoup de nouvelles, de romans. Et bon, j'ai jamais persévéré. Et puis là, récemment, j'ai été galvanisé par la lecture de Stephen King, écriture. Et je me suis lancé dans l'écriture d'un roman policier. Et je voulais poser une question pragmatique. Sous quelle forme envoyer ce livret? Format papier, en numérique? Voilà, c'était ma question.
Question directe, un peu voilà, intéressée, technique. Mais vous avez raison de la poser.
Oui, complètement.
Oui, non, mais c'est le moment ou jamais. Là, on a du monde pour vous répondre. Jean-Marie Laclaftine, allez.
Oui, certains éditeurs acceptent le format numérique. Nous, chez Gallimard, on préfère le format papier pour des tas de raisons.
Vous entendez, pratiques, Laurent.
Mais l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Et voilà, il n'y a pas de format idéal. L'important, c'est que ça soit pas trop serré, parce que quand on voit arriver un manuscrit avec 50 lignes par page et des caractères minuscules.
Ça refroidit.
On a un peu refroidi. Pour ce qui est des lettres d'accompagnement, il y a toujours une lettre d'accompagnement, mais autant les faire les plus brèves et les plus simples possibles. C'est pas la peine de faire l'éloge de votre propre roman quand vous l'envoyez chez l'éditeur. On est censé avoir un avis sur la question, et donc simplement envoyer une lettre très simple avec vos coordonnées, le manuscrit imprimé de façon lisible et claire, et puis c'est tout. Vous pouvez l'adresser à un lecteur particulier si vous avez chez un éditeur, un écrivain, enfin dont vous savez qu'il a des activités éditoriales qui vous plaît, dont le travail vous convient. Adressez-le à lui, ça sera plus direct, ça ira peut-être un peu plus vite. Voilà, mais c'est
oui, ça c'est le
Mohamed Aïssa.
Oui, c'est vrai que ce conseil est important parce que beaucoup l'oublient. C'est comme quand on envoie un CV, il faut connaître l'entreprise, il faut savoir à qui on l'envoie, et si l'auditeur l'envoie chez Gallimard, autant l'envoyer à la Série Noire par exemple, oui. Ou avoir un nom, etc. C'est des petites choses qui peuvent faire gagner parfois quelques mois quand même.
Et surtout, n'envoyez vos manuscrits qu'à des éditeurs que vous aimez, dont vous aimez le travail, parce que c'est pas la peine de tirer au hasard et d'aller chez des gens qui ne vous conviennent pas.
C'est des conseils que vous donnez, ça, lors des ateliers d'écriture, Mohamed Aïssaoui ?
Oui, parce qu'il y a toujours une petite partie technique. Et je fais aussi venir un éditeur lors d'une séance et pendant une heure, questions ouvertes. Aussi bien, j'ai envoyé mon manuscrit, il n'a pas été accepté, pourquoi ? J'ai pas d'explication, etc. Les questions aussi basiques, l'interlignage, etc. Il y a une partie technique, hein. Et on peut avoir des gens très instruits, mais ils ne connaissent pas le milieu de l'édition, qu'à ses règles, qu'à ses coutumes. Et il faut les connaître pour avoir un maximum de chances de réussite.
Vous donnez des conseils de temps en temps à des gens qui vous en demandent à la main bon coup dans ce domaine-là?
Ah oui. Moi, de toute façon, j'ai toujours préféré envoyer sur papier. Même quand j'écris sur l'ordinateur, mais à un moment donné, quand je commence à corriger, sur papier, c'est mieux. Comme ça, je vois un peu si c'est pas trop serré ou quoi. Le principe, c'est de ne pas saturer la page, hein, comme a dit Jean-Marie tout à l'heure, que s'il y a 50 lignes sur une page, déjà, à prime abord, on se dit, mais bon, je vais me taper, il y a combien de pages? Et en plus, il y en a qui rajoutent 50 pages par ligne, plus recto verso. Là, c'est la totale, dans ce sens. Donc, les conseils, c'est que un manuscrit bien soigné, c'est comme quelqu'un qui vient quelque part, il vous respecte, il se présente bien pour chercher du travail, il est bien habillé, même s'il n'aura pas de travail, mais au moins, il aura été bien reçu. Mais un manuscrit bien traité, bien arrangé, bien préparé. On ne demande pas non plus, comme certains, de faire déjà la couverture en marquant en bas édition Gallimard, parce qu'on a vu des choses pareilles. Hein. Édition du Seuil, édition Gallimard, 300 pages. Ils mettent même le copyright déjà, hein. Copyright Gallimard. Et puis, donc
il n'y a plus vraiment, qu'à publier. Après.
Voilà, il faut. La présentation est très importante. C'est-à-dire que parfois, quelque chose de très beau, qui est mal présenté peut bénéficier ou souffrir d'un désavantage dès le départ parce que, ben, en général, on va se dire que la forme risque d'informer sur le fond. Hein, donc, c'est dans ce sens.
Ilana, un petit mot?
Alain Mabankou, est-ce que, comme vous faites beaucoup de salons, de festivals, etc., est-ce que les gens essayent de vous donner leur manuscrit à lire? Comment vous réagissez dans ce genre de situation qui peut être assez embarrassante?
Oui, c'est délicat quand même, parce que quand quelqu'un vient avec un manuscrit, vous lisez sur son visage tout le travail qu'il a fait, toute l'angoisse, et il vous fait comprendre que vraiment, vous êtes presque ma bouée de sauvetage, parce qu'il pense tout simplement que, puisque vous avez publié, puisque vous êtes là, puisque le public vous connaît, que en prenant le manuscrit directement, je vais chez l'éditeur, ça va passer. Mais en réalité, c'est difficile de le faire. Vaut mieux ne pas donner aux écrivains les textes dans les salons du livre parce qu'ils risquent de les oublier dans les hôtels.
C'est noté, Alain Mabankou. Un grand merci à vous pour ces 2 heures passées avec nous. Merci beaucoup Jean-Marie Laclaftine d'être venu.
Merci.
Mohamed Aïssaoui, Ilana Moryoussef. Je rappelle évidemment que ce week-end, c'est la fête du livre à Radio France. On attend beaucoup de monde. Vous allez revenir, Alain Mabankou. Voilà, vous allez pouvoir camper ici. Des tas d'émissions auront lieu en direct. Pour n'en citer qu'une, allez, il y aura le grand atelier de Vincent Josse dimanche après-midi. Il y aura le du Tigre aussi. Voilà, surtout ne ratez pas, c'est à la maison de Radio France pour ceux qui sont sur la région parisienne. Merci en tout cas à tous de nous avoir appelés et à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission.